Bienvenue si vous nous rejoignez, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Il reste quelques heures aux partenaires sociaux pour se mettre d'accord sur une réforme de l'assurance chômage. Point de friction toujours, les contrats courts. Le patronat semble avoir fait un pas cette nuit pour lutter contre la précarisation. Nous essaierons de comprendre sa stratégie dans un instant.
Et nous reviendrons ensuite sur la défense du ministre Gérald Darmanin visé par une deuxième plainte. Matignon semble prendre ses distances.
Magistrats, fonctionnaires et greffiers se mobilisent aujourd'hui. Ils ont les mêmes inquiétudes autour de la réforme de la carte judiciaire et veulent défendre leur spécificité, vous l'entendrez.
Et puis nous irons en Afrique du Sud, où le président Jacob Zuma a démissionné hier soir, touché puis coulé donc par des affaires de corruption.
Dans un quart d'heure, dans son billet politique, Frédéric Seitz évoquera Emmanuel Macron et le syndrome de l'école des fans. Imaginez un dispositif anti-précarité pour éviter le bonus-malus brandi par le gouvernement. Les partenaires sociaux négocient depuis un mois et demi maintenant dans le cadre de la future réforme de l'assurance chômage. Et les discussions coincent surtout sur les contrats courts. Comprenez la précarité professionnelle. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Clara.
Vous suivez pour France Culture, c'est pour parler. Cette nuit, le patronat semble avoir fait un geste. Il accepte de négocier avec toutes les branches professionnelles. Concernant la précarité.
Oui, c'était la demande notamment de la CFDT et de la CGT d'élargir le périmètre à toutes les branches et pas seulement aux quatre secteurs identifiés comme les plus gourmands en contrats courts de moins d'un mois, à savoir l'intérim, le spectacle, l'hébergement-restauration et l'hébergement médico-social. Le patronat concède donc et en profite d'ailleurs pour envoyer une pique au gouvernement qui lui non plus n'est pas exemplaire sur l'usage des contrats courts. Même s'il ne relève pas de l'UNEDIC, le patronat appelle les employeurs publics à prendre toute leur part en réduisant les situations de précarité des agents qu'ils emploient. En revanche, sur le volet sanctions, le texte ce matin ne prévoit aucune avancée. Le patronat n'en démord pas et ne veut pas entendre parler de bonus-malus pour contraindre les branches professionnelles qui ne se saisiraient pas ou pas assez du sujet. Une très mauvaise idée dont il ne veut pas être complice, affirmait encore récemment Pierre Gattaz.
À charge donc aux partenaires sociaux de trouver un terrain d'entente pour rendre une copie acceptable. Sans quoi, Annabelle, l'exécutif pourrait reprendre la main sur les discussions jusque-là paritaire.
Oui, pour les syndicats, si l'abus des emplois courts ne s'accompagne pas de sanctions, les bonnes intentions de limiter l'emploi précaire resteront donc lettre morte. C'est donc pour eux une condition sine qua non. Si Force ouvrière plaide depuis des années pour le système du bonus-malus, comme le gouvernement d'ailleurs, les autres syndicats proposent d'autres options, comme la cotisation dégressive pour la CFDT, la surcotisation pour la CGT, et encore plus conciliante, la CFTC suggère que le patronat, s'il ne veut pas entendre parler de sanctions, abonde alors le compte professionnel des salariés qu'il emploie en contrat court. Autant de propositions auxquelles le patronat est resté sourd jusque-là, à croire qu'il préfère en laisser la responsabilité au gouvernement. D'ailleurs, s'agissant de la gouvernance, que le gouvernement veut également modifier, le patronat ce matin se prononce désormais favorable à une gouvernance rénovée, sur des sujets comme les minima sociaux ou l'assurance chômage, ce qui confirme les déclarations ces derniers jours de Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, pour encore quelques mois, qui ne trouvait rien de choquant à ce que le gouvernement reprenne la main sur des négociations lorsqu'il juge que cela ne va pas assez vite.
Merci Annabelle Grelier. Alors il y a d'autres points de négociation dans cette future réforme de l'assurance chômage. L'indemnisation étendue aux indépendants, aux démissionnaires avec un projet de reconversion également. Là, les discussions ont un peu avancé. Ce matin, la feuille de route prévoit la création d'une instance indépendante de Pôle emploi pour juger du caractère réel et sérieux du projet professionnel, ce qu'avait demandé le gouvernement. Tempête en vue sur le rail avec la remise aujourd'hui au gouvernement du rappeur Spinetta, du nom de l'ancien patron d'Air France, chargé maintenant de préparer l'avenir de la SNCF. 160 000 cheminots, une dette de 45 milliards d'euros et la pression de Bruxelles pour ouvrir le rail à la concurrence. Il a fallu revoir tout cela et proposer des solutions. Le maintien de voies ferrées peu fréquentées pose notamment question, ainsi que le statut des cheminots. Il pourrait être supprimé pour les nouveaux embauchés, comme ce qui a déjà été fait à la Poste. Et quand on repense les services publics, les statuts spécifiques pour plus d'économies, le ministre des Comptes publics, lui, est chahuté. Une nouvelle enquête a été ouverte contre Gérald Darmanin. D'abord accusé de viol, il est cette fois visé par une plainte pour abus de faiblesse. Une femme de Tourcoing, où il était maire, l'accuse de lui avoir fait des avances alors qu'elle demandait un logement. Je me tourne vers vous, Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Du service politique de France Culture. Anne, le soutien autour de Gérald Darmanin ne semble plus aussi fort qu'il y a 10 jours lors de la première plainte.
Oui, fin janvier, alors que la première enquête pour viol était révélée, Matignon avait fait savoir que Gérald Darmanin avait toute la confiance du Premier ministre. Pour cette deuxième affaire, Édouard Philippe appelle, je cite, au respect des droits de chacun, la parole du plaignant comme la présomption d'innocence. Glissement sémantique donc, disparition du mot confiance. Mais en même temps, Édouard Philippe réaffirme la règle qui veut qu'un ministre puisse rester au gouvernement tant qu'il n'est pas mis en examen. Pourra-t-il la tenir cette règle, Édouard Philippe, avec ce mauvais feuilleton qui se poursuit pour son ministre des Comptes publics? Une deuxième affaire qui arrive après les révélations d'un scandale sexuel concernant Nicolas Hulot, le ministre de l'écologie. Révélation aujourd'hui critiquée mais qui sème le trouble pour un gouvernement qui se veut intraitable contre les violences faites aux femmes et dont l'exemplarité est l'un des points cardinaux. Hier soir, dans la classe politique, la pression s'est accentuée pour demander la démission de Gérald Darmanin. Selon le porte-parole de Les Républicains, cette deuxième plainte pour abus de faiblesse apporte du discrédit au ministre et de la gêne dans son action ministérielle. Tandis qu'à gauche, Olivier Faure rappelle la jurisprudence Bayrou, Sarnez, Goulard en début de quinquennat. Il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures, estime le député de la Seine-et-Marne.
Merci Anne Fauquemberg. C'est inédit depuis 2011, l'ensemble des syndicats de la justice, magistrats et fonctionnaires appellent à la mobilisation ce jeudi, tous inquiets des chantiers de la justice, la grande réforme préparée par la garde des Sceaux. Lors d'un déplacement à Vanves hier, Nicole Belloubet assurait une nouvelle fois que les tribunaux d'instance resteront tels qu'ils sont aujourd'hui, mais la carte judiciaire sera bel et bien modifiée avec des conséquences concrètes sur l'activité des tribunaux. Les spécialisations pourraient ainsi perdre en proximité. Marianne Bessac, magistrate à Saint-Quentin dans l'Aisne, le craint. Déléguée de l'Union syndicale des magistrats, l'USM, elle s'explique.
On va dépeupler de certains contentieux le tribunal de Saint-Quentin, notamment l'assistance éducative. Donc vous habitez Saint-Quentin, vous avez vos enfants placés à Saint-Quentin. Vous n'allez plus voir le juge des enfants à Saint-Quentin puisque le juge des enfants va être à Laon, à plus d'une heure de route. Vous souhaitez divorcer, vous n'allez plus au tribunal de Saint-Quentin, vous allez au tribunal de Laon. Certaines affaires pénales seront jugées à Laon, d'autres à Saint-Quentin. Et donc, vous auriez par exemple des magistrats du parquet basés à Laon qui devront aller prendre certaines audiences à Saint-Quentin. On n'est pas contre une réforme puisque la justice doit gagner en efficacité, ça c'est sûr. Mais où est le gain d'efficacité? Où est le gain de rationalité?
Marianne Bessac, autre inquiétude par ailleurs soulevée par cette journée d'action, la transformation numérique du système judiciaire. La relaxe pour Jawad Ben Daoud, celui qui était surnommé le logeur de Daesh, a donc quitté la prison de Fréjan hier en début de soirée, après avoir passé 27 mois à l'isolement. Le tribunal correctionnel de Paris estime qu'il n'y a pas assez de preuves pour dire si oui ou non il savait qu'il hébergeait des terroristes du 13 novembre 2015. Son avocat Xavier Nogueras ne cachait pas son émotion au micro de Florence Turmière à la sortie de la salle d'audience.
Le 18 novembre 2015, Jawad Ben Daoud se présente devant les caméras et il va dire quelque chose qui ne sera entendu qu'aujourd'hui. Je ne savais pas. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on est extrêmement ému d'avoir entendu, après de longues explications, le tribunal nous dire que Jawad Ben Daoud était innocent. Et ça, c'est important pour nous, pour ses parents, pour sa famille, et puis pour les victimes aussi qu'elles l'entendent, parce que c'était aussi le procès des victimes qui se présentaient pour avoir un début de vérité, parce qu'il y aura d'autres vérités qui vont arriver dans les mois et les années qui viendront, mais elles peuvent se le dire ce soir quand elles entreront chez elles, Jawad Ben Daoud est innocent.
Et le parquet de Paris a fait appel de cette décision. Les deux autres prévenus, eux, ont été condamnés à 4 et 5 ans de prison. Le premier pour non-dénonciation de crime, l'autre pour avoir joué les intermédiaires.
Il est 8h09 sur France Culture et c'est la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Jacob Zuma n'est plus le président d'Afrique du Sud ce matin.
Il n'avait guère le choix. Les députés de la majorité s'apprêtaient à voter aujourd'hui sa destitution au Parlement. Le président sud-africain a donc démissionné hier soir, poussé par son parti de l'ANC. Un peu plus tôt dans la journée, il avait déjà dénoncé une décision sans fondement et injuste, selon lui. Mais il est rattrapé par des affaires de corruption à répétition, Lisa Fabian.
Pendant longtemps, Jacob Zuma a semblé inébranlable, capable de traverser tous les scandales sans jamais tomber. Cela fait des années que le président démissionnaire échappe aux motions de défiance et aux recours en justice, qu'il résiste aux manifestations populaires et aux guerres de factions. Aujourd'hui, le départ de Jacob Zuma offre une nouvelle chance au Congrès national africain, le parti majoritaire qu'on disait si divisé a su parler d'une seule voix pour se ranger derrière son nouveau chef. Cette démission élection, c'est évidemment une victoire pour Cyril Ramaphosa, élu à la tête de l'ANC il y a seulement 2 mois et qui devrait être investi dès aujourd'hui président de la République. Cet ancien syndicaliste, devenu richissime homme d'affaires, s'est engagé à relever l'économie sud-africaine et à lutter contre la corruption au sommet de l'État. Quant à Jacob Zuma, il pourrait bientôt faire face à ses responsabilités et répondre de certaines de ses actions devant la justice.
Jamais les attaques ciblées n'avaient fait autant de morts en Afghanistan. Ce matin, la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan, la MANOA, publie son rapport sur les victimes civiles du conflit. 3438 morts l'année dernière, 7015 blessés. Si la MANOA enregistre une baisse globale de 9% par rapport à 2016, elle s'inquiète toutefois du nombre plus important de victimes d'attaques suicides et d'attaques dites complexes avec plusieurs types d'armes, plus 17% en un an. Preuve de ces attentats à répétition, des générations entières en Afghanistan sont touchées physiquement par ces blessures de guerre. Sonia Ghazali l'a constaté au fil de ses rencontres.
Omed a 17 ans, il a une prothèse à la place de la jambe droite depuis 2 ans.
J'étais allé au bazar acheter des médicaments pour ma famille. Sur le chemin du retour, j'ai sauté sur une mine qui était plantée le long de la route.
Le jeune homme vit dans un village dans une province au nord de Kaboul où des combats éclatent régulièrement entre insurgés talibans et forces de sécurité afghanes.
Je pense que les talibans ont planté des mines sur la route pour piéger les voitures de l'armée ou de la police.
L'adolescent calotte noire sur la tête est l'aîné d'une famille de 7 enfants et il en a la responsabilité économique. Dans un quartier ouest de Kaboul, Mohamed Alem ne quitte jamais son lit. Je me serais suicidé si cela n'était pas interdit par la religion, dit-il. Mais c'est surtout pour mes enfants que je reste, ajoute-t-il. Cet ancien employé de la Cour suprême afghane est paraplégique. Il est l'un des 2 rescapés d'une attaque suicide qui a visé il y a 2 ans un minibus transportant des fonctionnaires de Kaboul. Son épouse, âgée de 27 ans, soit 30 ans de moins que lui, gère seule son handicap et leurs 4 enfants, dont 2 en bas âge.
Mon frère m'a dit que si je voulais quitter mon mari, je pouvais partir et refaire ma vie parce que je suis jeune, mais je lui ai dit non, j'aime mes enfants, je ne veux pas les quitter.
Selon la loi afghane, Nadera devrait laisser ses enfants à son mari si elle décidait de le quitter. Impossible pour la jeune épouse de travailler tant sa charge de travail au quotidien est importante. Des familles entières se retrouvent ainsi brutalement plongées dans la misère après avoir été touchées par un attentat, première cause avec les mines et les engins explosifs, de mortalité et de blessures dans la population civile afghane.
Un reportage de Sonia Ghazali, correspondante de RFI à Kaboul pour France Culture. Ce n'est pas la guerre qui tue massivement aux États-Unis, mais des actes isolés, souvent difficilement explicables. Hier après-midi, un jeune homme a ouvert le feu dans un lycée public de la ville de Parkland en Floride, au nord de Miami. Le bilan est extrêmement lourd, 17 morts. La tuerie de Columbine en 1999 avait par exemple fait 13 morts. Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour Clara.
Vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Le tireur a été arrêté hier dans la foulée. Âgé de 19 ans, il avait fréquenté l'établissement de Parkland. Il en avait été exclu pour des raisons disciplinaires. Ses motivations, Grégory, seraient donc malheureusement assez classiques, si l'on peut dire. Et ce type de fusillade est récurrent en Floride.
Oui, un élève qui revient commettre un massacre dans un établissement qu'il a fréquenté, c'est un scénario malheureusement qu'on a déjà vu ici. On ne sait rien pour l'instant des raisons qui ont poussé ce jeune homme, Nicolas Cruz, à commettre une telle tuerie, mais ceux qui le connaissent décrivaient hier soir un jeune homme inquiétant, obsédé par les armes, à tel point que l'an passé, raconte un enseignant à un journal local, on lui avait interdit de venir au lycée avec un sac à dos de peur qu'il n'y ait une arme dedans. Et puis une fusillade en milieu scolaire, c'est malheureusement aussi quelque chose que les Américains connaissent. Vous parliez de la tuerie de Columbine en 99, elle avait considérablement marqué les esprits, mais depuis il y a eu aussi le massacre de l'école primaire de Sandy Hook en 2012, 20 enfants abattus dans une école primaire, ou celui de l'université de Virginia Tech, 32 morts en 2007. Les associations qui militent pour le contrôle des armes à feu ont fait les comptes, il y a en moyenne une fusillade par semaine dans un établissement scolaire aux États-Unis. Alors, pas toujours avec autant de victimes, mais tout de même, hier soir, le président Trump a réagi sur Twitter. Aucun enfant, aucun enseignant ne devrait jamais se sentir en insécurité dans une école américaine, mais hormis des formations offertes aux élèves ou des portiques de sécurité, rien n'est fait, et ce depuis des années, pour limiter le nombre d'armes à feu dans le pays. Et en Floride, précisément, eh bien, c'est l'un des États les plus permissifs en matière de port d'armes. Hier soir, le gouvernement gouverneur de l'État Rick Scott chercher une explication à la tuerie, ça ne peut être que le mal en personne, mais en vérité pas seulement, car la Floride est l'État américain où il y a le plus d'armes à feu en circulation.
Merci Grégory Phillips, en direct de Washington pour France Culture ce matin. Quelques mots enfin de Médecins Sans Frontières, à son tour pris dans des scandales sexuels. On a beaucoup parlé d'Oxfam ces derniers jours. Eh bien, MSF révèle dans la foulée avoir été confronté à 24 cas de harcèlement ou d'abus l'année dernière, des agressions entre collègues, mais aussi sur des patients ou des accompagnants. 19 salariés ont été licenciés, précise l'ONG. La pluie va tomber sur une grande partie du territoire. Aujourd'hui, jeudi, seules les frontières du Sud et les côtes de la Manche seront au sec, avec de belles éclaircies à la mi-journée. Les températures, elles remontent. Comptez ce matin 1 degré à Strasbourg, mais déjà 5 à Lyon, 7 à Dunkerque, 9 degrés en Île-de-France, 11 à Nantes et Perpignan, 13 degrés à Bayonne.